Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à toute une chacune et à tout un chacun, comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois, Chemin de Traverse vous propose l'émission « Et si on en parlait ?», une émission qui est là, ben, ma foi, pour parler de choses dont on parle peu, ou dont on parle mal, ou dont on parle pas. Alors, en cette période un peu hivernale, où on est tous bien calfeutrés chez soi, on regarde par sa fenêtre la météo. Bon, en ce moment, il y a un petit peu de soleil, mais on sait à quoi c'est dû. C'est dû, des fois, au réchauffement climatique qui est provoqué par notre activité. Et donc, on s'aperçoit que notre activité peut être nuisible à la planète et à notre santé. Justement, on va parler de choses qui sont nuisibles à la planète et à notre santé, puisqu'on va parler, on va faire le point sur la pollution à Villefranche et son entourage, parce que la pollution ne s'arrête pas aux frontières, n'est-ce pas, comme le nuage de Tchernobyl l'avait soi-disant fait. Alors, pour parler, pour faire ce point sur la pollution à Villefranche-sur-Saône, je reçois ce soir Alain Guay, qui est conseiller municipal d'opposition à la mairie de Glaizé. Bonsoir Alain Guay.
Bonsoir.
Alors Alain Guay, qui est un militant et un lanceur d'alerte, il y en a plusieurs à Villefranche, et quelqu'un qui se préoccupe de toutes sortes de problématiques, et entre autres de la qualité de notre environnement. Et depuis de nombreuses années, il suit un certain nombre de dossiers avec un autre lanceur d'alerte d'Arnas, qui est Monsieur Andry. Et il nous en parlera peut-être du reste. Et il lance des alertes donc pour informer la population et aussi pour questionner les décideurs élus, aussi les représentants de l'État en France par l'intermédiaire des sous-préfets et puis aussi tous les organismes qui sont censés veiller à la qualité de l'air et à la qualité de la santé de la population de notre Beaujolais. Et Alain Guay, donc, a un dossier qu'il suit depuis de nombreuses années, qui est le dossier de l'usine Metal Europe. Alors bon, elle a un nouveau nom, Recyclex ou quelque chose comme ça, mais elle est plus connue des Caladois sous le nom de Metal Europe. Et Metal Europe, donc, était une usine qui a balancé du plomb pendant des années sur notre secteur. Usine qui a été fermée, qui maintenant poursuit des activités. Ces activités, on va en parler. Cette usine était classée très, très à risque. Et elle a propagé de la pollution, surtout à base de plomb, mais pas que, sur notre territoire. Et ce plomb pose encore question. Alors Alain Guay, qu'en est-il ?
Alors effectivement, c'est une des caractéristiques du plomb, c'est qu'il n'est pas lavé par les eaux de pluie, il n'est pas dispersé par le vent. Donc là où il se dépose, il reste. Et cette pollution qui s'est achevée plus ou moins il y a 20 ans, quand la fusion a été fermée, l'activité de fusion du plomb des batteries, hein, c'était ce que faisait l'entreprise Metal Europe.
Les batteries d'automobile.
Voilà, les batteries d'automobile. Le problème, c'est que les centaines de tonnes de poussières de plomb qui se sont déposées sur toute l'agglomération, une fois arrivées sur les bâtis, sur les bords de fenêtres, sur les bords d'escaliers, dans les paillassons ou tout ce que vous voulez, cette poussière reste. Voilà. Et le problème, c'est que depuis 20 ans, on n'a rien fait de particulier, on n'a pas pris de précautions particulières, et même on est aujourd'hui dans le déni d'une réalité. Et l'idée qu'on a eue avec Jean-Pierre Andry de faire une pétition, c'est pouvoir aller voir le préfet et lui demander une bonne fois pour toutes de faire une véritable enquête environnementale, selon des techniques d'ailleurs bien particulières, parce qu'aujourd'hui il existe un suivi autour de l'usine en question, mais c'est un suivi qui est fait à base d'analyse de sol sur des terrains qui sont cultivés, donc le plomb est enfoui, il ne permet pas de véritablement mesurer le danger. Or, il est de notoriété que le vrai danger, ce sont les poussières, et donc il y a des techniques dites de ressuyage, hein, où on va analyser effectivement les pollutions de poussière sur les bâtis.
D'accord. Alors, ce plomb, quel est le risque si on est confronté au plomb ?
Alors, le plomb, c'est un toxique très violent, hein, qui, une fois dans le sang, provoque des dégâts neurologiques importants. Et ce, d'autant plus qu'on est jeune, donc c'est-à-dire que ça retarde le développement mental de l'enfant. Il est prouvé que à peine 0,1 mg de plomb dans le sang réduit de façon significative le quotient intellectuel. Donc c'est un poison violent, hein. D'ailleurs, on connaît la problématique de l'empoisonnement au plomb par les fameuses peintures qui s'écaillent, vous savez, les vieilles peintures dans les vieux bâtiments. Là, on peut craindre qu'à certains endroits, voilà, des enfants dans des cours d'école, dans des relais d'assistantes maternelles, soient toujours exposés à ces poussières.
Voilà, alors ces poussières, cette usine, on va le rappeler, elle est située à Arnas, au nord de Villefranche. Ces poussières, elles ont été développées, elles se sont répandues sur quel territoire ?
Écoutez,
parce qu'on pourrait dire ça concerne juste le site de l'entreprise.
En 99, il y a eu une enquête qui a été menée, et il y a eu des relevés qui se sont faits sur un périmètre très élargi, et on a trouvé des quantités considérables, et y compris très loin. J'ai pas tous les chiffres en tête.
Oui, non, mais c'est pas tout.
Rue Balofet, là, derrière, de l'autre côté du cimetière, donc on est déjà à plusieurs kilomètres du site, on a fait des relevés astronomiques sur des bords de fenêtres. Donc, c'est difficile de dire jusqu'où ça s'est répandu, mais en tout cas, c'est pas dans un périmètre étroit autour de l'usine, ça, c'est voilà. Certain.
Donc, ces poussières qui s'évacuaient de l'usine lors de son activité, au nord donc de Villefranche, les vents qui couvrent sur Villefranche viennent du nord et se dirigent justement sur l'agglomération.
Donc, le vent dominant a plutôt tendance à pousser tous ces polluants atmosphériques qui sont produits encore aujourd'hui. Hein, on va peut-être y revenir. C'est pas qu'une histoire ancienne. Hein, voilà. Et ce vent effectivement arrose toute l'agglomération. Et puis il y a un phénomène aussi qu'on appelle un phénomène d'inversion de température aussi qui plaque au sol ces poussières. Donc, les caractéristiques géographiques jouent vraiment contre nous. Et donc, c'est une ineptie d'avoir construit toutes ces industries polluantes aussi près et au nord de l'agglomération.
Voilà, alors c'était une ineptie à l'époque. Et à l'époque, ces usines sont anciennes. On se préoccupait peut-être moins et on avait peut-être moins de connaissances sur les risques industriels tels que cette usine pouvait amener. Mais actuellement, puisque j'entends vous disiez que ben voilà, ça continuait. Actuellement, pourquoi on continue sur ce site à produire des déchets toxiques ?
Ben, moi, mon analyse, c'est qu'il y a un certain déni de la réalité de la part des responsables locaux. C'est-à-dire que pour eux, à partir du moment où une activité industrielle est déclarée conforme par les services de l'État, bon, ben, ça veut dire que tout va bien. Voilà. Donc ils confondent la conformité avec l'absence de pollution. Et là, c'est un petit peu comme les polluants dans l'eau. On a eu longtemps, et encore pour un certain temps, une eau qui, pour chacun des polluants, était en dessous du seuil, mais dont on sait bien que l'effet cocktail peut être très, très nocif. Mais là, on a un petit peu le même problème. Chaque activité industrielle prise séparément est peut-être conforme, encore qu'il faudrait regarder de plus près. Mais la multiplication de ces activités fait qu'on a une émission régulière, permanente, conséquente et délétère de polluants atmosphériques, hein, que ce soit avec Terre d'Alliance, que ce soit avec l'usine d'incinération d'ordures ménagères, que ce soit avec Rosilex et C2P, qui est l'usine frère à côté. Voilà, on a un ensemble important d'activités qui produisent de ces poussières toxiques, et on peut sérieusement se demander s'il ne faudrait pas plutôt faire machine arrière plutôt que de continuer. Parce que le problème actuel, c'est ça, c'est que les décideurs locaux continuent à donner des autorisations d'activité au lieu de freiner le mouvement.
Alors, je disais tout à l'heure qu'à l'époque, quand ces usines se sont construites, bon, on était peut-être moins informés, voilà, moins au fait des problèmes. Mais alors maintenant, cette information, elle est connue. Il y a des organismes de contrôle qui sont sous la responsabilité du sous-préfet, mais pas que, aussi comme la DREAL, enfin des organismes de contrôle qui suivent tous ces sites. Alors, si c'est connu maintenant, si déjà le sol est imprégné par du plomb, pourquoi on continue à rajouter ? Enfin, le déni n'est pas qu'une réponse.
Ben écoutez, faudrait leur poser la question à tous ces décideurs. Moi, j'imagine que la question de l'emploi opère en espèce de masque qui empêche de voir vraiment la réalité. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour créer quelques emplois ? Alors c'est vrai que c'est des questions de société qui sont importantes. Il y a une dimension historique du maillage entre activité industrielle et habitation. Le développement de Villefranche n'a pas été particulièrement bien conçu, mais ça date de vieux. Hein. On peut pas bien dire sûr que c'est la responsabilité des dirigeants d'aujourd'hui. La question, c'est, mais maintenant que l'on sait,
voilà, c'est ce que je disais.
Il faudrait faire machine arrière. Et les exemples, encore là, tout récent, tout chaud. Et je peux vous en citer au moins trois. Mmh. Voilà, c'est très étonnant. Par exemple, à côté du site Metal Europe, enfin, Recilex aujourd'hui, on a créé des logements sociaux. Mmh. Des logements sociaux à un jet de pierre hein, de l'usine. Bon, pourquoi construire ces logements sociaux ici ? Moi, je vais vous le dire, c'est parce que le terrain n'était pas cher, c'est tout. Hein, mmh. Voilà.
Mais terrain, il n'était pas dans une zone. Puisqu'il y a eu contamination, normalement, il y a des zones qui sont sécurisées.
Alors, il y avait une partie de ce terrain qui était en servitude d'utilité publique, qui normalement aurait dû interdire la construction. Mais au moment de la révision du PLU, eh bien, les services de l'agglo ont légèrement déplacé le cercle de cette servitude de façon à libérer le terrain et à permettre le permis de construire.
Mais à ce moment-là, s'il y a eu déplacement, c'est volontaire qu'on peut, on peut plus dire que c'est du déni.
Oui, ben écoutez, moi j'en ai averti le préfet qui n'a rien trouvé à redire puisque ça n'a pas été dénoncé dans les temps, donc pour le préfet tout va bien, on ne peut plus faire marche en arrière.
Revenons au plomb, un petit moment, est-ce qu'il y a encore des contrôles, des évaluations, des mesures qui sont faites sur le territoire, par exemple suite à au fait que le dossier ressorte, vous avez peut-être obtenu des nouvelles informations là-dessus ?
Ah ben écoutez, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de transparence. Hein. Normalement, il y avait ce qu'on appelle une CLIS, c'est une commission locale d'information
et de sécurité,
de sécurité dont les services de l'État prétendent qu'elle se réunissait une fois par an, ce qui est faux, c'est un mensonge éhonté. Hein. On a lu ça dans la presse, ça je peux le garantir. Au début, elle s'est réunie un tout petit peu, puis après, elle a complètement cessé. Elle a été remplacée par une nouvelle commission qui surveille en même temps cette usine Recilex et l'usine d'incinération, dont les réunions ne sont pas rendues publiques, dont les comptes rendus ne sont pas diffusés alors qu'ils devraient l'être.
C'est obligatoire normalement.
Mais normalement c'est obligatoire. Hein. Moi j'ai fouillé attentivement tous les sites des mairies et de l'agglo à la recherche de ces documents, ils n'y sont pas. Donc il y a un véritable défaut d'information. Ça, c'est certain. Et puis, ces commissions sont fermées, alors que potentiellement, elles peuvent inviter toutes sortes d'associations, de
normalement,
personnes,
d'experts. Normalement, il y a des représentants d'associations.
Voilà.
Oui.
Et on n'est même pas prévenu. Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit Jean-Pierre André ou moi-même n'ayons pas une certaine notoriété sur ces questions-là.
Ben oui, tout à fait. Oui.
Notamment, Jean-Pierre André, lui, il accumule des dossiers. Il fait un travail de fond extrêmement important, extrêmement précis, extrêmement rigoureux. Donc, sa parole a vraiment de la valeur.
Puis c'est de quoi il parle, puisqu'il venait d'une entreprise du même genre.
Donc, quel est le rôle de ces commissions ? Est-ce que c'est vraiment de travailler sur le fond et de voir quel problème existe, ou est-ce que c'est de poser un voile pudique autour de ces questions-là pour surtout ne pas alerter la population hein.
Mais le jour où je ne sais pas quelle enquête montrera qu'il y a de réels problèmes de santé publique qui ont été posés à la population, Ce jour-là, il faudra trouver un lampiste. Ça va se passer comment ?
C'est toujours le même problème, c'est qu'il n'y a pas concomitance des temps. C'est-à-dire que les conséquences des décisions prises aujourd'hui, elles se feront sentir peut-être dans 10, 15, 20, 30 ans. Et donc, comment remonter après aux responsabilités ?
Après moi, le déluge, non ?
Voilà, c'est un petit peu le problème. Hein, voilà. Et donc, le principe de précaution, qui pourtant existe, n'est pas mis en œuvre. Aujourd'hui, on est dans une phase où on doit réviser le plan local d'urbanisme, donc le PLU. Il y a également récemment une révision du SCOT, du schéma de cohérence territoriale. On ne voit pas s'avancer une logique justement de claire séparation des activités industrielles d'un côté et des habitations de l'autre, qui permettrait... parce que ces activités industrielles, elles sont nécessaires. Si on revient sur Metaleurop, Procilex, c'est plutôt bien de recycler les batteries, de réexploiter le plastique d'un côté, le plomb de l'autre, il faut le faire.
Mais pas au milieu des immeubles.
Mais voilà, le problème, c'est où est-ce qu'on le fait, voilà. Et donc, le faire aussi proche des habitations, ou à l'inverse, construire des habitations aussi proches de ces activités, c'est criminel. Je peux vous donner un autre exemple, l'entreprise Sepovet, qui fabrique des vêtements de... qui a racheté Lafon récemment, donc c'est une grosse entreprise installée à Glaizé dans le quartier de la Chartonnière. Bon, ils ont voulu développer leur activité, après tout, très bien.
Oui.
Mais bon, alors historiquement, ils avaient un petit site, là, au milieu d'une zone résidentielle. Ils ont décidé de construire des hangars gigantesques. Mais quand je dis gigantesques, c'est plus de 15 mètres de haut, c'est 40 mètres de long, parfois à 10 mètres des habitations. Ce sont des installations classées pour l'environnement, c'est-à-dire elles ont des risques, elles ont des risques industriels. La question c'est, mais pourquoi construire de telles installations au milieu des villas ? Pour moi c'est un non-sens. À 300 mètres de chaque côté de la Chartonnière, on construit des immeubles à côté des usines et on construit des entrepôts industriels au milieu des villas. Qu'est-ce que c'est que ces choix d'aménagement ? Qui peut comprendre ça ?
Alors, il faut quand même se rappeler que sur Villefranche, nous avons malheureusement, pour la santé publique, quatre sites industriels classés Céveso au risque haut. Et un risque Céveso, c'est à peu près ce qu'il y a de plus dangereux pour une entreprise.
Alors, oui, il ne faudrait pas non plus que les citoyens prennent trop peur. Si le risque est élevé, Céveso, c'est aussi un classement qui impose des contraintes de protection et de sécurité élevées également. Voilà. Donc, dans les années 80, le choix politique a été fait de responsabiliser les entreprises, de leur permettre de mettre elles-mêmes en place des procédures d'autocontrôle. Dans l'idée... cette responsabilisation, bon, elle n'est pas contestable. Après, la question, c'est mais est-ce que tout le monde respecte bien ça ?
Voilà, on va en parler avec un autre exemple. Après, une chanson de Jacques Dutronc, c'est un petit jardin qui était tout beau, puis maintenant, il est tout vilain. Voilà.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin.
Voilà, et maintenant le rouge-gorge est parti parce qu'il y avait trop de plomb dans le sapin dans ce petit jardin. Voilà, je retrouve Alain Guay, donc conseiller municipal d'opposition à Arnasse pour parler des
à Glaizé,
pour parler justement parce qu'on allait parler d'Arnasse pour parler des problèmes de pollution. Alors pour on vient de parler un petit peu de Metal Europe et ça fait un moment qu'on en parle de cette entreprise. Une pétition existe pour les gens, une pétition qui a à ce jour recueilli environ 9000 signatures à destination du préfet, du sous-préfet. Cette pétition, alors ?
Alors, cette pétition, elle vise à demander au préfet de réaliser enfin une enquête environnementale. Autour de nous, on nous dit volontiers qu'on agite le chiffon rouge, on veut faire peur à la population, enfin bon, voilà, on veut exister politiquement, ou voilà, toutes sortes de motifs, et on dénie la réalité de cette pollution. Donc nous, on dit, ben, puisqu'il en est ainsi, il faut trancher, puisqu'on n'est pas cru, puisque des gens semblent dire qu'il n'y a pas de problème, puisqu'on continue y compris à faire des installations. Là, dans le secteur, il y a eu un relais d'assistante maternelle qui a été créé dans une zone qui, à notre sens, est notoirement polluée. Bon, alors, s'il n'y a pas de problème, qu'on le montre. Mmh. Faisons donc cette enquête, sérieusement. Faisons l'affaire par un cabinet indépendant, par des techniques qui sont reconnues et éprouvées. Et puis, on verra. Si on s'est trompé avec André, on sera les premiers à reconnaître notre erreur.
Et voilà. À être heureux.
Eh bien, tant mieux. Ça voudra dire qu'effectivement, on s'est inquiété pour rien.
Alors, cette pétition, on peut la signer sur le site CitizAction. Alors, www.citizaction.fr. Citization, c'est CitizAction.fr. Sur ça, sur n'importe quel moteur de recherche, on tape pétition Metal Europe et on tombe dessus. Alors, juste avant d'écouter la petite pause, là, on parlait de dispositifs, de réglementations qui avaient été mises en place pour demander aux entreprises de s'autocontrôler. De suivre un certain nombre de procédés, de processus, en cas de problème, etc., de déclaration, voilà, d'information de la population. Et puis on s'aperçoit que, et on disait, bon, ben, tant mieux, c'est bien pour les entreprises, c'est bien pour la sécurité, tout va bien. Mais voilà, le problème, c'est que, comme vous disiez juste avant, eh ben, il faut que les gens respectent tout cela. Et on a le cas avec l'entreprise, la société Caron, toujours à Arnasse, décidément cette pauvre ville d'Arnasse, et qui en août 2018, donc elle a eu des petits problèmes.
Alors ça, ça illustre un petit peu ce que c'est que le travail de veille que font les lanceurs d'alerte. Hein. C'est Jean-Pierre André qui m'a appris à faire ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement aller sur le site de la préfecture et voir tous les arrêtés qui sont publiés. Et il y en a nombreux chaque jour. Donc c'est un travail long et minutieux qu'il faut faire. Et donc c'était à cette occasion, donc au mois d'août, là, j'étais en congé, j'ai un petit peu de temps. Et donc, je suis tombé sur cet arrêté qui concernait la société Quaron. Donc, société qui est dite Céveso Seuil Haut. Donc, c'est le plus haut niveau de sécurité hein, qui puisse exister. Et donc, ce qui implique pour cette société une surveillance toute particulière des opérations. Alors c'est une société qui fait des transvasements de produits à base d'acide ou à base de soude. Alors on comprend bien que le mélange acide et soude est un mélange explosif particulièrement dangereux et donc il y a des protocoles très particuliers à suivre. Et courant août, eh bien, il s'est avéré que cette entreprise a effectué des transvasements avec des produits dont la concentration n'était pas autorisée par les services de l'État.
Un pourcentage supérieur à ce qui
était autorisé. Il y a eu des déversements sur le sol au point que le voisinage a été incommodé, hein, a senti ces odeurs d'ammoniac. Mmh. Voilà. Donc non seulement l'entreprise a fait une opération interdite, mais en plus elle n'a pas déclenché le plan que normalement...
De déclaration d'incident.
De déclaration d'incident. Et elle n'a fini par prévenir les services de l'État qu'après, sous l'influence probablement du fait que les voisins avaient rendu l'affaire publique, et donc ils ne pouvaient plus masquer l'affaire. Et donc c'est là que se pose la question. Si le principe d'autocontrôle responsabilise les entreprises, qu'en est-il des entreprises au comportement irresponsable ? Oui. Et je suis de ceux qui regrettent que les services de l'État, la DREAL en particulier, ne soient pas dotés des moyens suffisants et nécessaires à un contrôle suffisant de ces entreprises dangereuses.
Des manques d'inspecteurs, des manques d'inspections inopinées, sans prévenir.
Oui, par exemple, des visites inopinées, bien sûr. Mmh. Et puis, il ne faut pas le cacher, aussi, une volonté politique des gouvernements. Comme je disais tout à l'heure, l'emploi est tellement prioritaire que parfois, on est peut-être un petit peu moins regardant, de peur que ça puisse ne pas permettre le développement de l'activité économique.
Est-ce que ça peut laisser entendre que la DREAL aurait des consignes, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, on appuierait un peu sur le frein pour signaler des incidents?
Écoutez, je crois que c'est un petit peu comme les médias, c'est-à-dire qu'il y a une auto-censure ou un auto-contrôle de la part de ces organismes. Il n'y a pas forcément besoin d'ordre écrit, mais... connaissant les grandes lignes politiques et connaissant les moyens dont ils disposent, ils appliquent la politique qu'ils peuvent.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, cette pauvre population ? Alors, cette pauvre population, elle a reçu dans sa boîte aux lettres des informations. Alors, on ne sait pas ce qui se passe en ce moment, mais on communique beaucoup sur les risques industriels majeurs sur tout le territoire français, du reste. Et il y a des petites brochures qui existent et qui sont distribuées par département, par région. Alors, il y en a une qui est faite pour Lyon et son secteur, et il y en a une qui est faite pour Villefranche. On trouve quoi dans ces brochures ? Est-ce que vraiment elles informent ?
Alors, bon, ces brochures, elles sont plutôt bien faites, hein, il faut reconnaître. Moi, je n'ai pas trouvé à redire sur la qualité de l'information, ni sur la pertinence. Je me suis d'abord, dans un premier temps, étonné. Ça fait bientôt 30 ans que j'habite dans la région. C'est la première fois que je reçois ça.
Oui, justement, c'est ce que je disais. Ouais.
Alors que ça fait bien 30 ans que je vis dans une agglomération où les risques sont certains. Voilà. Bon. Oui, sans doute. C'est un des éléments, je pense, importants. D'ailleurs, ça montre bien que ce qu'on raconte à propos de ces entreprises à risque, c'est pas une invention de notre part.
C'est pas une invention.
Sinon, on n'aurait pas eu ça dans nos boîtes aux lettres.
Hein. L'État s'en préoccupe.
Voilà, l'État s'en préoccupe. Après, je pense que c'est nécessaire, mais à mon avis, d'autres moyens de prévention devraient venir compléter ces brochures.
Oui, de prévention et puis surtout d'information sérieuse et suivie de la population.
Oui, mais vous savez, on a un peu tendance à infantiliser les gens, on a un peu tendance à croire que si on disait la vérité, les gens prendraient peur de façon inconsidérée. Moi, je crois pas. Je crois que les gens sont plutôt responsables. Si on leur explique la réalité, oui, c'est vrai qu'il y a des activités à risque. Pour autant, ce risque peut être quand même maîtrisé. Et puis, certes, effectivement, il y a peut-être des précautions à prendre. Et selon où on habite, voilà.
Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Et puis, il faut savoir comment fonctionnent les sirènes et comment elles peuvent nous informer. Tout ça, vous le retrouverez dans ces brochures et sur le site de la ville de Villefranche, mais toutes les communes de l'agglomération diffusent cette information. Voilà une population informée et consciente, et comme ça, elle sera sécurisée et en sécurité. Alain Guay, merci.
Merci.
Voilà, c'était Si on en parlait. À bientôt. Au revoir.
100.9 Calade.